Tout d'abord, j'aimerais apporter une petite précision, un complément, disons, d'information à une question qui m'a été posée la dernière fois sur la prière aux âmes du purgatoire. Aïe, 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 question difficile, ça. Hein. Alors, je vous ai donné une réponse l'autre jour, qui est bonne, hein, elle est bonne, mais que l'on peut peut-être un petit peu nuancer. Alors, je vous donne simplement les arguments qui sont pour et ceux qui sont peut-être contre, qui sont pris tout simplement dans la théologie, saint Thomas d'Aquin, essentiellement, c'est lui notre maître, toujours. Ce que nous demandons dans la prière, c'est la vie bienheureuse. Toute autre demande ne doit se faire que par rapport à cette vie, en fonction de l'éternité, bien sûr, par suite. La prière ne peut être dirigée que vers ceux qui déjà possèdent la vie bienheureuse, et non pas vers ceux qui sont en ce monde, ni vers ceux qui sont au purgatoire. Voilà ce que dit saint Thomas d'Aquin. Leur objection, les âmes du purgatoire sont sûres de leur salut. Elles sont donc dans une situation supérieure à la nôtre, donc nous pouvons les prier. Réponse. Bien que les habitants du purgatoire soient en plus grande sécurité que nous, c'est vrai, parce qu'ils sont sûrs de leur salut, ça c'est évident, ils sont aussi dans une plus grande affliction. Ils souffrent plus que nous. De plus, ils ne sont pas en état de mériter. Et c'est pourquoi ils ont plus besoin qu'on prie pour eux que de prier pour nous. Et au sujet, par exemple, d'un miracle, vous voyez qu'on a un miracle opéré par une âme du purgatoire, d'après un récit de saint Grégoire, on croyait Pascase au ciel à cause de ses mérites excellents, et c'est pourquoi on le priait. Et cette prière fut exaucée à cause de la foi des gens. La prière est exaucée en raison de la foi de ceux qui priaient. C'était comme une approbation de sa vie, mais ce n'était pas parce que lui, se trouvant au purgatoire, aurait prié pour les autres. Oui, la prière est exaucée, mais ce n'est pas parce que lui a prié, mais c'est à cause de la foi de ceux qui priaient, qui le priaient. Oui. Bon, voilà. Et un autre texte, vous voyez encore. Ceux qui sont au purgatoire, bien que supérieurs à nous par leur impeccabilité, nous sont inférieurs quant aux peines qu'ils souffrent. À cause de cela, ils ne sont pas en état de prier, mais bien plutôt de bénéficier de nos prières. Voilà, toujours pareil. Ouais. Ils nous sont supérieurs sous un certain rapport, mais sous un autre rapport, ils sont dans un état pire que le nôtre, si l'on veut. Hein. Et l'argument, je dirais, clé, un petit peu, de tout cela, pourquoi les âmes du purgatoire, semble-t-il, ne peuvent pas intercéder pour nous, donc on ne peut pas les prier. Ceux qui sont en ce monde ou dans le purgatoire ne jouissent pas encore de la vision de Dieu, de manière à connaître ce que nous pensons ou disons. Et les âmes du purgatoire, elles n'ont pas le moyen de savoir ce que nous pensons ou ce que nous disons. Et pour cela, une âme séparée, une âme qui est donc dans l'autre monde, vous voyez, ne peut avoir connaissance de ce qui se passe sur la terre que en Dieu. Elle le voit en Dieu. Or, les âmes qui sont au purgatoire n'ont pas encore la vision de Dieu. Vous voyez. Donc, elles ne savent pas ce que nous demandons. Elles ne peuvent pas le savoir. Vous voyez. Elles ne savent pas ce qui se passe ici-bas. Et c'est pourquoi, donc, etc., nous n'implorons pas leur suffrage par la prière. Alors que pour ceux qui étaient vivants, si c'est quelqu'un qui est vivant, ben nous leur adressons nos demandes par la parole. On leur parle directement, mais les âmes du purgatoire, on ne peut pas avoir l'accès direct avec elles. Oui, il faudrait passer par Dieu, or, elles ne sont pas encore en Dieu. Donc, semble-t-il, on ne peut pas établir une liaison directe avec elles. Oui, bon. Bon, enfin, voilà, ça c'est quelques arguments de saint Thomas d'Aquin. Alors, il y a des arguments qui sont dans l'autre sens, bien sûr. Ouais, il faut faire la part égale. Alors, attendez voir que je les retrouve. Voilà quelques arguments, donc un petit peu qui. C'est vrai ce que nous disons, que les âmes du purgatoire ne connaissent pas nos besoins et nos prières, vous voyez, parce qu'elles ne les voient pas en Dieu. C'est vrai. Mais voilà, saint Thomas d'Aquin qui donne, l'autre argument dans l'autre sens. Vous voyez, alors, bon, vous verrez un petit peu vous-même, c'est celui qui s'applique de façon le plus. Avec le plus d'autorité, les âmes des morts, dit-il, peuvent s'occuper des intérêts des vivants sans connaître leur état. C'est dans une autre question qu'il traite la question, qui parle de cela. De la même façon que nous nous occupons des morts en leur appliquant nos suffrages, bien que nous ne sachions pas quelle est leur destinée. Mais ils ne savent pas très bien, peut-être, exactement ce qui se passe ici-bas. Elles n'ont pas connaissance exacte de nos besoins, mais elles savent que nous avons des besoins. Oui, donc ça c'est l'autre argument. Bon, c'est vrai, les âmes du purgatoire ne savent pas, ne connaissent pas nos prières, mais elles savent d'une façon plus générale que les vivants sont dans le besoin, qu'elles ont besoin de grâce, etc. Et que donc, oui, donc elles peuvent peut-être faire valoir à ce moment-là, aux yeux de Dieu, ces besoins des vivants. Et elles peuvent également, toujours saint Thomas qui dit cela, connaître les actions des vivants, non pas par elles-mêmes, mais par les âmes de ceux qui vont de cette vie dans l'autre. Par les âmes qui arrivent au purgatoire et qui leur racontent, ah, vous savez, en bas, il se passe telle chose, etc. Bon. Ou bien par les anges, même par les démons, ou bien encore par Dieu lui-même. C'est sûr que Dieu peut leur faire connaître ce qu'il veut, ça, c'est. Il est libre de parler à qui il veut, ça, c'est bien évident. Hein. Vous voyez. Donc, voilà, les arguments un petit peu dans les deux, dans tous les sens. Et on a un exemple également dans la Sainte Écriture. Au deuxième livre des Maccabées, une vision de Judas Maccabée relative aux prières d'Onias pour le peuple juif. Or, Onias ne pouvait être que dans les limbes. Il ne pouvait pas être au ciel, puisque le ciel n'était pas ouvert. Hein. L'incarnation n'avait pas eu lieu, l'ascension non plus, donc les âmes n'étaient pas au ciel. Donc, au maximum, Onias était au limbe. Et pourtant, vous voyez, Judas Maccabée. Cette vision de Judas Maccabée relative aux prières d'Onias pour le peuple juif, et qui pourtant priait pour son peuple. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore? D'autres arguments. Où est-ce que j'ai mis cela? Il faut que je les retrouve. Alors qu'ils sont peut-être encore plus. Il n'y aura pas plus décisifs. Mais c'est des exemples dans les vies des saints. Alors, où est-ce que j'ai mis ça? Je ne trouve plus. Ah si, voilà. Voici ce que disait Sainte Catherine de Bologne. Sainte Catherine de Bologne. Quand je veux obtenir quelque grâce de notre Père du Ciel, j'ai recours aux âmes du purgatoire. Je les supplie de présenter à Dieu ma requête et de l'appuyer, et je sens que je suis exaucé par leur entremise. Et le Saint Curé d'Ars. Si l'on savait combien grande est la puissance des bonnes âmes du purgatoire sur le cœur de Dieu, et si l'on connaissait bien toutes les grâces que nous pouvons obtenir par leur intercession, elles ne seraient pas tant oubliées. Il faut bien prier pour elles, afin qu'elles prient bien pour nous. Voilà, donc, oui. La solution, c'est tout simplement la prudence, oui. Les théologiens se disputent un peu pour savoir si on peut les prier ou si on ne peut pas les prier. Toujours est-il que l'Église, elle, n'a pas tranché dans la matière. Ouais. Donc elle laisse libre chacun de faire un peu ce qu'il veut en la matière. Ouais. Mais il faut être très, très, très prudent. Si vous voulez, quelques règles que l'on peut appliquer quant à cette prière aux âmes du purgatoire. C'est ce que dit un auteur ici. Ça me paraît très, très juste, très, très, très mesuré. D'abord, cette dévotion, et dans cette prière aux âmes du purgatoire, doit être quelque chose de très accessoire dans la dévotion aux âmes du purgatoire. Ouais, ça doit être l'essentiel de notre dévotion aux âmes du purgatoire. Très accessoire, parce que malgré tout, les âmes du purgatoire ont beaucoup plus besoin de nos prières, que nous prions pour elles, hein, que de les prier. Donc on peut-être les prier, mais ça doit être très, très accessoire. Il faut d'abord leur rendre le service qu'elles attendent de nous, qui est de prier pour elles. Ça, c'est bien clair. Oui. Ensuite, cette dévotion doit rester d'ordre privé. d'ordre privé. On ne peut pas prier publiquement un défunt. On ne peut pas prier un défunt de manière publique, officielle, etc. Ça, non. On peut prier pour lui, pour elle, ça bien sûr. Mais donc cela réagit toujours d'ordre, dévotion d'ordre privé. Et puis enfin, troisième règle, la prière aux âmes du purgatoire doit être faite avec plus de circonspection que la prière adressée à Dieu ou au sein du ciel. Voici par exemple ce que dit les conseils que donne Saint Robert Bellarmine, et c'est très 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 bien, je trouve ça. Saint Robert Bellarmine qui défend lui, hein, là, qui est un des. Il est favorable à la prière aux âmes du purgatoire. Tout cela est vrai, dit-il, et cependant il serait exagéré et superflu de prier ordinairement les âmes du purgatoire et de leur demander leur intercession. Ouais, ce serait non exagéré de les prier ordinairement comme on prie les saints. Non. En effet, elles ne peuvent pas ordinairement connaître nos actions et nos besoins en particulier. Ce n'est pas dans le mode ordinaire, vous voyez, cette connaissance. Elles savent simplement, d'une manière générale, les dangers que nous courons, tout comme nous ne connaissons qu'en général les tourments qu'elles endurent. Elles n'interviennent pas dans tous nos événements, elles ne voient pas nos prières en Dieu, puisqu'elles ne sont pas bienheureuses, et il n'est pas vraisemblable que Dieu leur révèle ordinairement ce que nous faisons ou demandons. Vous voyez, donc il dit attention, hein. Il ne faut pas que ce soit une prière ordinaire, habituelle, comme ça. Non, ce qu'il faut prier, ce sont les saints. C'est Dieu, bien sûr, et ce sont les saints. Hein. Voilà, bon, petit complément à ce que je vous disais la dernière fois, voilà, pour rassurer peut-être certains esprits un peu troublés par ce que j'avais pu vous dire. Voilà, reprenons notre sujet sur les effets du baptême. Bon, il est une distinction qui peut-être un petit peu vous surprendre, hein, c'est ce que nous avons dit les fois précédentes, entre ces effets qui sont toujours produits et d'autres effets qui ne sont pas toujours produits. Hein. Les effets qui sont toujours produits, donc, sont ceux qui se rattachent au caractère. C'est l'incorporation au Christ, l'incorporation à l'Église, cela. Le baptême réalise toujours cela, incorporation au Christ, incorporation à l'Église, ce qui fait qu'effectivement, alors c'est sûr, ça peut paraître un peu étrange, mais qu'est-ce que vous voulez, on ne peut pas aller contre, un baptême valide, même s'il est donné dans une secte protestante, même s'il est donné par un païen, par un hérétique, etc., si le baptême est valide, eh bien il incorpore à l'Église. Celui qui a reçu ce baptême valide est membre de l'Église, vous voyez. Mais ce baptême, alors c'est là la distinction qu'il faut faire, hein. On dit que ce baptême n'est pas fructueux. Il est valide, il incorpore à l'Église, mais il n'est pas fructueux, c'est-à-dire qu'il ne produit pas les fruits de grâce. Il n'y a pas la production de la grâce, ouais. L'âme n'est pas donc sanctifiée par la présence, par la vie de la grâce. Il est incorporé à l'Église, mais il n'y a pas les fruits du baptême. C'est donc les autres effets, hein, ceux que nous allons commencer à voir aujourd'hui, ces autres effets-là ne sont pas produits. Hein. Bon. Donc il faut bien distinguer entre ce baptême valide et le baptême fructueux, qui est une distinction classique dans la théologie catholique. Alors justement, c'est ces effets qui peuvent être empêchés, hein, nous l'avons dit. Il y a deux effets essentiellement qui peuvent être empêchés, c'est la rémission du péché, donc l'effacement du péché et de toutes ses suites, et l'infusion de la grâce sanctifiante. Et ces effets-là peuvent n'être pas produits par le baptême s'il y a un obstacle. Alors voyons d'abord le premier effet. Bon, alors le premier, les deux effets se produisent un peu en même temps, hein, la rémission des péchés et l'infusion de la grâce. Mais commençons par la rémission des péchés. Cela est clair, hein, cela est affirmé par tous les conciles qui ont traité du baptême. Le concile de Florence, par exemple, hein, est très clair. Le baptême nous fait renaître de l'Esprit Saint et nous donne accès au royaume des cieux. Il a pour effet de remettre tous les péchés, originels et actuels, quant à la culpe et quant à la peine. Voilà, cela c'est de foi. Hein. Donc rémission du péché. Péché originel, les péchés actuels qui auraient été commis avant le baptême, et rémission du péché quant à la culpe, donc quant à la faute, le péché lui-même est effacé, mais également quant à la peine. La peine due au péché, voilà, c'est fini, elle n'est plus due. Tout est effacé. Il n'y a plus ni péché, ni peine due au péché. Alors nous commençons donc par voir aujourd'hui cette question de la rémission des péchés, mais comprenez bien que c'est une... Il faut bien parler d'une chose l'une après l'autre, hein, mais les deux effets sont produits quasiment en même temps. C'est par le même acte que Dieu donne la grâce et remet la faute. Il est clair que l'âme, quand la grâce est donnée à l'âme, le péché ne peut pas demeurer. Et vice-versa, quand le péché est retiré, bien c'est la grâce qui prend la place. Vous voyez, donc ces deux effets sont produits en même temps. Dieu pardonne, si vous voulez, en donnant la grâce. Donc voyons d'abord ce que le péché remet. Ce que le péché remet, donc le Concile de Florence le dit de façon claire, il remet tous les péchés. Et tout du péché, tout ce qui appartient, tout ce qui relève du péché. Alors le premier péché qui est remis, bien sûr, c'est le péché originel. C'est ce que dit le Concile de Trente. Nous avions vu ces textes, je crois, au début. On avait lu quelques passages. Concile de Trente, dans la session 5, qui disait, si quelqu'un nie que les enfants nouveau-nés doivent être baptisés et déclarent qu'ils n'ont rien contracté de la faute originelle d'Adam qui doivent être expiés, etc. D'où il s'ensuivrait qu'appliquer à ces enfants la forme du baptême institué pour la rémission des péchés ne se vérifierait pas qu'il soit anathème. Les petits-enfants qui n'ont pu commettre aucune faute personnelle sont véritablement baptisés pour obtenir la rémission des péchés, afin que ce qu'ils ont contracté par la génération soit lavé en eux par une régénération. Hein, donc c'est clair. Hein. C'est clair pour les enfants, déjà, bien sûr. Le péché originel est remis, puisque les enfants n'ont pas pu commettre d'autres péchés que le péché originel. Ils n'ont commis aucun péché actuel, aucun péché personnel. Donc il est bien clair que c'est le péché originel qui est effacé. Et un peu plus loin, toujours le Concile de Trente, si quelqu'un nie que par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ conférée dans le baptême, l'offense de la faute originelle soit remise, qu'il soit anathème. Donc c'est clair, c'est deux fois, le baptême remet le péché originel. Et c'est là d'ailleurs le but premier et principal de l'institution de baptême. La première raison d'être du baptême, justement, c'est la rémission du péché originel. Et c'est une des raisons pour lesquelles on ne peut pas réitérer le baptême. On ne peut pas renouveler le baptême, redonner le baptême une deuxième fois, parce que le premier effet, du moins le premier but, la première raison d'être du baptême, c'est l'effacement du péché originel. Et une fois qu'il a été effacé, c'est effacé, il ne revient pas quand même. Heureusement, hein, ça, c'est terminé. Hein. Voici ce que dit saint Thomas. Le baptême a été institué pour nous guérir du péché originel, et comme ce péché, une fois effacé, ne reparaît plus, nulle raison pour que le remède, qui est le baptême, soit renouvelé. Et ça, c'est bien clair, et c'est une chose extraordinaire, hein, ce qui se passe au moment du baptême. Hein. Bon, bien sûr, nous pensons toujours à la production de la grâce, etc., c'est vrai, tout ce qui est donné, hein, toutes ces richesses qui sont données à l'âme dans le baptême, hein, ça, c'est bien vrai, mais il y a d'abord, je dirais, cette première réalité, après, bon, en plus du caractère qui est gravé dans l'âme, hein, c'est cette rémission du péché originel, c'est la réponse au drame du péché originel, hein, c'est la réplique du paradis terrestre, hein, ce drame qui s'est déroulé au paradis terrestre, hein, ce péché d'Adam, ce péché d'Ève, etc., qui, pouf, comme ça, tout d'un coup, est fini. C'est comme si ça n'avait pas existé. L'âme, elle est libérée complètement, hein, de la conséquence de ce péché de nos premiers parents. Hein, c'est là on voit vraiment à l'œuvre, on le voit. On ne le voit pas malheureusement, mais on le sait, en tout cas on y croit, il faut y croire. Hein. La puissance et la bonté de Dieu, ouais, qui par hein, toute petite formule, un tout petit peu d'eau, etc., bien, dénoue ce qui a été noué hein, par le péché de nos premiers parents. Hein. Tout est réparé. Hein. Tout est réparé pour l'individu qui reçoit le baptême. Hein. Cet enfant qui reçoit le baptême est soustrait à la malédiction. C'est fini. La malédiction ne vaut plus pour lui. Elle vaut pour d'autres peut-être, mais pas pour lui en tout cas. Hein. Donc il est arraché à cette malédiction primitive, hein. Libéré des chaînes du démon, et son âme eh bien, retrouve cette pureté, cette clarté, cette transparence, si l'on peut dire, eh bien, qu'avait l'âme de nos premiers parents. C'est magnifique. Si nous voyons cela, ce serait beau de pouvoir voir cela. Nous ne le voyons pas, mais nous le savons. Il faut y croire, en tout cas. Ouais. Et c'est là, encore une fois, hein, la fin première, la fin principale, peut-être, de l'institution du baptême par notre Seigneur. Ouais. Parce que c'est là la clé de tout, c'est le début de tout. Tant que le péché originel est dans une âme, rien ne peut y prendre place d'autre. C'est l'obstacle majeur, ça. Tant qu'il y a le péché originel, la grâce ne peut pas rentrer, les vertus, tout ça, c'est fini. Tout ça est bloqué à l'extérieur. Oui. Et donc, la première raison d'être du baptême, eh bien, c'est précisément l'effacement, la rémission du péché originel. Alors après, ça y est, bon. Tout le reste, eh bien, peut prendre place, hein, selon les volontés de Dieu. Donc, premier effet du péché originel, quant au péché, c'est donc l'effacement du péché originel. Deuxième effet, c'est la rémission des péchés actuels. Alors bien sûr, hein, cette rémission des péchés actuels ne vaut que pour les adultes, puisque l'enfant, lui, n'a pas pu commettre de péché actuel, n'a pas pu commettre de péché personnel. Pour l'enfant, seul est remis le péché originel, c'est clair, hein. Mais pour un adulte, eh bien, non seulement le péché originel, mais également les péchés actuel. Le baptême appartient à ce que l'on appelle les sacrements des morts. Vous savez peut-être qu'on distingue dans les sacrements des vivants et les sacrements des morts. Les sacrements des vivants, bien, ce sont les sacrements que l'on donne à ceux qui sont en vie. Alors, vie de la grâce, attention. Vie de la grâce, c'est ceux qui ont déjà la grâce. Donc c'est l'Eucharistie, la confirmation, le mariage, l'ordre. Et l'extrême-onction ? L'extrême-onction est un sacrement des vivants. Attention, ce n'est pas un sacrement des morts. Hein. Il n'est pas mort encore celui à qui on donne. Non, ce n'est pas du tout ça. Et les sacrements des morts, eh bien, il y en a deux. C'est le baptême et la pénitence que l'on donne à ceux dont l'âme est morte. Enfin, morte. En tout cas, n'est pas en état de grâce. Voyez. L'âme qui n'a pas la grâce, eh bien, elle a besoin d'un des sacrements que l'on donne à ceux qui sont morts. Et qui sont morts? Quels sont ceux qui sont morts? Eh bien, ce sont les enfants non baptisés, ou les adultes non baptisés, ou bien l'adulte en état de péché mortel. Celui-là, il est mort. Même s'il a l'air vivant, il est mort, en fait. Donc, il a besoin du sacrement des morts, qu'ils appellent le sacrement de la pénitence. Hein. Donc, le baptême est un sacrement des morts pour effacer non seulement le péché originel, mais également les péchés commis après le baptême, les péchés actuels commis avant le baptême, hein, par les adultes. Hein. Et oui, il faut bien distinguer, vous voyez, ces deux sacrements des morts. Hein. Parce que le baptême, contrairement à la pénitence, ne requiert, même chez un adulte, ne requiert ni la confession préalable. On ne demande pas à quelqu'un qui va recevoir le baptême de se confesser, ni de faire une pénitence, etc. Ce n'est pas nécessaire, hein, pour le baptême. Un adulte qui reçoit le baptême n'a pas besoin, il est affranchi, il est libéré de toutes ces contraintes de celui qui se confesse. Pourquoi ? Eh bien parce que on se confesse pour recevoir l'absolution et la pénitence. Or, on ne peut imposer aucune œuvre satisfactoire au baptisé. Le ministre qui confère le baptême n'a pas à juger de la culpabilité ou non-culpabilité de celui qui va recevoir le baptême. Voyez. C'est une peine, c'est une certaine peine que la honte d'avouer à un homme le détail de ses péchés. Voyez. Quant à l'absolution par le pouvoir des clés, le baptisé n'en a pas besoin, puisque le baptême remet tous ses péchés. Donc, il n'a pas besoin de se confesser, ouais. Parce que le baptême va faire, précisément, eh bien, tout ce que fait, pour le pécheur, tout ce que fait le sacrement de pénitence. À ceux qui se présentent au baptême, on ne doit donc pas demander une confession détaillée. Il faut se contenter de la confession générale qu'ils font lorsque, suivant la liturgie, ils renoncent à Satan et à toutes ses œuvres. Voilà, ça suffit. C'est la seule confession qu'on leur demande, donc renoncer à Satan et à toutes ses œuvres. Alors s'il en est qui par dévotion, c'est saint Thomas qui explique tout ça, vous voyez, s'il en est qui par dévotion veulent se confesser, bon, très bien, on pourra leur faire ce cadeau, si vraiment ils y tiennent, mais ce sera simplement à titre de direction, pour leur donner quelques conseils pour la vie spirituelle, la vie chrétienne, mais pas, ce ne sera pas le sacrement de pénitence, on ne peut pas leur donner l'absolution. Ils vont recevoir le baptême qui aura le même effet, et même peut-être plus encore, hein, que l'effet de l'absolution. Ouais. Le seul cas où l'on puisse exiger une confession des péchés mortels, eh bien, ce serait le cas d'un baptême qui serait réitéré sous condition. Quelqu'un qui aurait été baptisé, mais de façon douteuse, on n'est pas très sûr, etc. Bon, on va lui redonner le baptême sous condition. Et dans ce cas-là, eh bien, on peut demander, on doit même demander la confession des péchés mortels, hein, si on doute de la validité du premier baptême. Oui, donc pour un baptême d'adulte, si vous voulez, pour la rémission des péchés actuels, donc la confession n'est pas requise, ni aucune même expression extérieure de repentir n'est requise, mais il y a quand même une chose qui est requise, et bien c'est la contrition. C'est la contrition. Et il faut que le baptisé, celui qui demande le baptême, l'adulte qui demande le baptême, donc est dispensé de la confession, il faut quand même qu'il ait la contrition de ses péchés dont il va être remis. Hein. Il faut qu'il y ait la contrition. Sinon, eh bien précisément, vous voyez, c'est un des effets qui peut être empêché. Hein. S'il n'y a pas la contrition suffisante, eh bien le baptême peut-être n'obtiendra pas cet effet de la remise des péchés actuels si le baptisé ne les regrette pas, s'il n'a pas une contrition suffisante. Donc, bien sûr, il faut même bien sûr exciter celui qui, le catéchumène, a regretté ses péchés, demandé pardon de ses péchés, mais directement au bon Dieu, sans passer par le sacrement de pénitence. Hein, mais précise bien, contrition uniquement des péchés actuels, des péchés qu'il a commis lui-même. Voyez. On ne va pas lui demander la contrition du péché originel, par exemple. Il ne faut pas lui demander ça, ce n'est pas lui qui l'a commis. Alors il peut le déplorer, il peut faire tout ce qu'on veut, ça c'est clair, tous nous déplorons le péché originel, mais je ne peux pas avoir la contrition à la place d'Adam et Ève. Moi j'ai la contrition pour mes propres péchés, c'est déjà pas mal, mais il ne faut pas demander à quelqu'un d'avoir la contrition du péché originel, ce n'est pas lui hein, qui est coupable directement, personnellement, de ce péché. Et donc, dans ces cas-là, dans la limite où précisément il y a donc la contrition suffisante, bien sûr, le baptême va effacer les péchés actuels. Hein, cela est également défini plusieurs fois par les conciles ou par une profession de foi imposée par Innocent III aux Vaudois. Dans le baptême, tous les péchés, soit celui d'origine que l'on contracte, soit ceux que l'on aurait commis volontairement, sont remis. Ou encore le Concile de Florence, nous en avons parlé, qui parlait de la rémission de tous les péchés originels et actuels quant à la culpe et quant à la peine. Le Concile de Trente, par le baptême, on obtient pleine et entière rémission de tous les péchés, donc pas seulement péchés originels. Et encore, dans les Saintes Écritures, bien sûr, si les conciles ont fait ces déclarations, c'est qu'il y a des racines, des fondements, dans la Sainte Écriture et chez les pères de l'Église. Par exemple, voici ce que dit Saint Pierre à ses auditeurs à Jérusalem, au jour de la Pentecôte. « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé pour obtenir le pardon de ses péchés. » Repentez-vous, oui, c'est bien clair, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé pour obtenir le pardon de ses péchés. » Oui. Si Saint Pierre parle de repentir, c'est pour les péchés actuels, c'est pas pour le péché originel. Hein. Repentez-vous, recevez le baptême et remise des péchés. Saint Ambroise, par le baptême, sans aucun doute, s'opère la rémission de tous les péchés. Toute faute est effacée. Ceux qui passent au bain du Christ y déposent tous leurs péchés. Et Tertullien, cette image bon, qui est tout à fait attaché au symbole, au symbolisme, à la signification, au geste du baptême. Hein. On lave le corps pour purifier l'âme. Et purifier l'âme, eh bien, elle est purifiée entièrement. On ne purifie pas à moitié. Hein. Saint Paul, bon, nous avons déjà vu, je crois, ce texte-là, plus ou moins. Saint Paul, combien de fois il parle justement de cette mort au péché. Par le baptême, on meurt au péché, or celui qui est mort est affranchi du péché. Il est libéré donc du péché, hein, c'est fini, il n'est plus esclave du péché. Et aux Corinthiens encore, il disait, voilà ce que vous étiez, il leur rappelle un peu, rappelez-vous ce que vous étiez, hein. Ouais, c'était pas beau avant. Hein. Voilà ce que vous étiez, impudique, idolâtre, voleur, mais vous avez été lavé. Vous avez été justifié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ par l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire purifié de tous vos péchés. Oui. Donc tous les péchés sont remis par le baptême, non seulement le péché originel, mais également les péchés actuels, au moins bien sûr les péchés mortels et même les péchés véniels, nous verrons. Hein. Mais c'est logique, hein. Je pense que cela ne doit pas vous surprendre. Hein. Le baptême ne peut pas effacer seulement le péché originel sans remettre également les péchés actuels. Ouais. Ça serait à la limite une sorte d'aberration que de libérer l'âme d'un péché mortel, qui est le péché originel, sans la libérer d'autres péchés mortels, maintenant que la purifier à moitié. Ce serait illogique complètement. Ouais. Effacer le péché originel, ça revient à quoi? Ça revient tout simplement à replacer l'âme dans l'état de grâce. Et replacer l'âme dans l'état de grâce, eh bien, c'est la libérer également de tous les autres péchés. Hein. C'est nous justifier, ce terme qui est peut-être plus théologique. Hein. Quand on parle de la justification, c'est rendre l'âme juste. Donc lui rendre la justice primitive. Et donc c'est la libérer, hein, la purifier de tous les péchés. Soit le péché originel, soit ceux qu'elle a commis personnellement. Et cela vaut, hein, nous le disions également, pour les péchés, non seulement pour les péchés mortels, mais également pour les péchés véniels. Tous les péchés sont effacés, non seulement le péché mortel, mais également les péchés véniels. Bon, bien que, je dirais, les péchés véniels n'empêchent pas la possession de la grâce. Bien sûr, on pourrait supposer une âme ainsi libérée du péché originel, libérée de ses péchés mortels qu'elle a commis elle-même, mais, et donc recevant la grâce, recevant la vie de la grâce, laquelle vie de grâce est compatible avec le péché véniel. Vous savez que le péché véniel ne retire pas la vie de la grâce, cela est bien vrai, mais le bon Dieu n'est pas radin, c'est pas très, très joli de dire ça, mais enfin, quand bon Dieu fait les choses, il les fait à fond, et quand il purifie du péché, eh bien il donne sa grâce entièrement, et non seulement il purifie des péchés mortels, mais il purifie bien sûr des péchés véniels, qui peut le plus, peut le moins, c'est évident. Hein. Pourquoi le bon Dieu irait-il s'amuser, je dirais, à laisser des petits péchés véniels comme ça, alors qu'il a libéré, qu'il a effacé tous les péchés mortels, hein. Ce ne serait pas très, très logique, or le bon Dieu est logique. Voyez donc, le péché remet tous les péchés. Le baptême remet tous les péchés. Tous les péchés. Alors, cela vaut pour l'enfant, et cela vaut également pour l'adulte. Ouais, c'est pourquoi, hein, au début de l'Église, justement, les chrétiens, certains prenaient cette mauvaise habitude, hein, d'attendre le dernier moment pour recevoir le baptême. Dieu comme ça, moi, je peux y aller tranquillement toute la vie, et puis au dernier moment, je demanderai le baptême. Oui, mais attention, hein. Le dernier moment, on ne sait pas très bien quand il va arriver, alors il vaut mieux prendre ses précautions quand même, et puis c'est un peu jouer à l'épicier avec le bon Dieu, comme c'est pas beau, ça. Bon, le bon Dieu, quand même, il n'a pas marchandé, hein, sa bonté, sa charité avec nous, alors il ne faut pas trop marchander non plus avec lui. Ouais. Donc, effacement du péché, de tous les péchés. Péché originel, péché actuel, mortel et véniel. Mais également, disions-nous, la peine due pour le péché. Dans la pénitence, bon, bien sûr, celui qui a péché, celui-là, bien, il doit expier, il doit réparer, il doit payer la dette. Eh bien, cette peine due au péché, elle également est remise par le baptême. Voici ce que dit le Concile de Trente encore. Autre est l'effet du baptême, autre celui de la pénitence. Se revêtant du Christ par le baptême, on devient en lui une créature toute nouvelle, recevant pleine et entière rémission de tous ses péchés. Tandis que par le sacrement de pénitence, on ne peut arriver à ce renouvellement que dans les pleurs et les peines, selon que l'exige la justice divine. De là, le nom de baptême laborieux, laboriosus baptismus, que les pères ont donné à la pénitence. Je trouve que c'est très beau ça. La pénitence, c'est un baptême laborieux. Et il faut faire pénitence. Et oui, c'est ça. On reçoit le pardon, mais c'est pas fini. Il faut encore, justement, mais réparer, expier. Il y a le devoir de la satisfaction pour les péchés commis. Cette satisfaction dont on est dispensé par le baptême. Le baptisé n'a pas besoin de satisfaire. Oui. Petite différence, encore grosse différence, entre ces deux sacrements des morts, le sacrement du baptême et le sacrement de la pénitence. Et c'est là la grande supériorité, justement, du baptême sur la pénitence. Celle-ci, comme son nom l'indique, c'est le sacrement de pénitence, exige justement une pénitence, une peine imposée par le confesseur et acceptée par le sujet, bien sûr, et accomplie. Et c'est une efficacité toute spéciale du baptême. Alors on peut se demander pourquoi cette efficacité spéciale du baptême, pourquoi le bon Dieu n'a-t-il pas attaché la même efficacité au sacrement de pénitence? Ça serait bien ça, ça serait un nouveau baptême non laborieux, ça serait pratique ça, et non. Efficacité tout à fait spéciale du baptême, eh bien pour trois raisons principalement. La première, eh bien, c'est bien sûr le fond des choses. Ça vient de l'union plus parfaite réalisée par le baptême, l'union plus parfaite à la passion du Christ. C'est l'incorporation de l'avant-dit, l'incorporation à notre Seigneur Jésus-Christ. Par le caractère, nous sommes donc incorporés à notre Seigneur. Et donc le baptisé est incorporé essentiellement justement à notre Seigneur dans sa passion, nous l'avons dit. Nous sommes configurés au Christ souffrant, au Christ dans sa passion. Et donc le baptême nous incorpore, nous unit plus directement à la passion du Christ. Voici ce que dit saint Thomas. « Si nous sommes morts avec le Christ, nous croyons que nous vivrons avec lui », dit l'Épître aux Romains. « Il s'ensuit que cette passion à laquelle tous les baptisés participent est à chacun un remède aussi efficace que l'eussent été ses propres souffrances et sa propre mort. » Par cette incorporation, tous les baptisés participent à la passion du Christ, et à ce moment-là, ça devient un remède aussi efficace que si c'était nous-mêmes qui souffrions et mourions. Or, nous avons dit que la passion est capable de satisfaire pour tous les péchés de tous les hommes. Donc, celui qui reçoit le baptême est délivré de toute la peine qu'avaient mérité ses péchés, comme s'il eût lui-même satisfait pour eux. Pratiquement, c'est la passion du Christ qui devient sa propre passion. Or, le Christ a satisfait pour tous nos péchés, et donc par le baptême, également nous satisfaisons, d'une certaine façon, pour tous nos péchés. Par conséquent, quelles que soient les fautes d'un baptisé, on ne doit jamais lui imposer de pénitence. Il ne faut jamais imposer de pénitence à un baptisé. Ce serait faire injure à la passion et à la mort du Christ en agissant comme si elle ne suffisait pas à satisfaire pleinement pour les péchés des baptisés. Si on imposait une pénitence à un baptisé, ça reviendrait à dire que la passion du Christ n'est pas suffisante puisqu'il faut encore qu'il fasse pénitence. Et non, parce que le baptême, c'est cette incorporation très très intime, très très profonde à la passion du Christ qui a satisfait pour tous les péchés de tous les hommes. Et donc par le baptême, nous participons, le baptisé participe à cette satisfaction pour ses péchés à lui. Donc il ne faut surtout pas lui imposer de pénitence pour ses péchés. C'est différent pour le sacrement de pénitence. Le sacrement de pénitence est donné à quelqu'un qui est déjà incorporé au Christ, mais qui a été, qui n'a pas bien vécu cette incorporation, qui était infidèle. Donc il faudra qu'il fasse pénitence, cette fois en son nom propre, pour retrouver peut-être une incorporation plus intime. Ensuite, deuxième raison, pour cette efficacité spéciale du baptême. Deuxième raison, eh bien, c'est que les péchés qui ont été commis avant le baptême semblent comporter moins de culpabilité que des péchés commis après le baptême. Eh oui, quelqu'un qui n'est pas baptisé et qui pêche, mais ma foi, on peut penser qu'il est moins coupable que celui qui pêche après avoir reçu le baptême, parce qu'il a peut-être moins de lumière, moins de connaissances, moins de grâce, certainement, moins de motifs, peut-être, justement, de s'abstenir du péché que celui qui est baptisé. Oui. Il connaît moins, peut-être, tous les secrets de l'amour de Dieu. Il a moins participé, puisqu'il n'est pas baptisé, aux bienfaits de la grâce de Dieu. Oui. Et donc, il sent quand même moins coupable que celui qui a péché après le baptême. Oui. La faute d'un étranger, si on peut dire, offense moins que la faute d'un ami, que la faute d'un enfant. C'est clair, cela. Donc, moins de culpabilité dans les péchés commis avant le baptême que dans les péchés commis après le baptême. Donc, pour celui-ci, pour ce dernier, donc il faudra lui imposer une pénitence qu'on n'impose pas au premier. Et enfin, troisième raison, c'est que le baptême est la porte de l'Église. Le baptême est la porte de l'Église. Et notre Seigneur veut son Église sine macula, sine ruga, sans tache, sans ride, pure, sainte, immaculée. Et donc, il veut précisément que le rite par lequel on entre dans l'Église purifie parfaitement, même de la peine due pour le péché, parce qu'il veut son Église sainte et immaculée. Et l'Église ne fait pas pénitence. L'Église ne fait pas pénitence. L'Église, elle n'est pas pécheresse, quoi qu'on en dise aujourd'hui. L'Église, elle ne commet pas de péché. L'Église ne fait pas pénitence. L'Église prie, l'Église offre, elle fait tout ce que l'on veut, mais elle ne fait pas pénitence pour ses péchés, certainement pas. Or, le baptisé rentre dans l'Église. Et donc, il doit y rentrer bien dans le même état pratiquement que l'Église dans laquelle il rentre. Donc, vous voyez, sans avoir à faire de pénitence. Alors, on peut faire peut-être une petite distinction, puisque là, nous parlons de cette question du baptême, là, de la pénitence, la différence entre le baptême et le sacrement de pénitence. Vous voyez. Il n'y a pas de pénitence à exiger d'un baptisé, donc là bien sûr c'est le cas d'un adulte, mais cela ne dispense pas des réparations qu'un baptisé aurait à faire auprès des hommes. Vous voyez, admettons un pécheur comme ça, quelqu'un qui reçoit le baptême et qui, avant son baptême, aurait contracté des obligations, il aurait commis des injustices, je ne sais quoi, etc. Bon, très bien, l'Église ne va pas lui imposer de pénitence au titre du péché, mais on va lui demander quand même de réparer les dommages, les torts qu'il a pu avoir auprès des autres, auprès du prochain, auprès de la société, tout ce que l'on peut imaginer. Ce serait trop facile sinon tous les bandits viendraient demander le baptême. Oui, alors il n'est pas question, attention, le baptême donne une absolution, si l'on peut dire, pas sacramentelle, mais enfin purifie des péchés face à Dieu, face à l'Église, mais pas face aux hommes. Donc celui qui a commis des fautes vis-à-vis du prochain, vis-à-vis de la société, vis-à-vis de qui on voudra, eh bien, devra quand même. Il n'est pas exempt de ses devoirs de réparation auprès des hommes. Ça c'est bien clair. Ce serait vraiment trop facile. Et nous l'avons dit, c'est la raison essentielle de ce baptême, de cette dispense de la réparation, dispense de la peine due au péché, vient essentiellement de l'incorporation à la passion du Christ, du fait qu'on est vraiment uni très très intimement à la passion du Christ. Et c'est pourquoi également, oui, on peut en parler un petit peu rapidement, c'est le martyr, qu'on appelle également le baptême de sang, et bien de la même façon, le martyr, le baptême de sang, incorpore également d'une certaine façon à la passion du Christ. Oui. Et bien de la même façon, le baptême de sang justifie l'âme comme le fait le baptême sacrement. L'âme sera justifiée de la même façon par le baptême de sang, par le martyr, qu'elle l'aurait été par le baptême d'eau, par le baptême sacrement, avec simplement la différence qu'il n'y aura pas le caractère. Le baptême de sang ne confère pas le caractère, hein, ni non plus la grâce sacramentelle. Elle peut donner la grâce, l'amitié avec Dieu, mais qui ne sera pas la grâce propre au sacrement. Et si on veut un petit peu distinguer, c'est, vous connaissez les trois baptêmes, bien sûr, le baptême d'eau, le baptême de sang et le baptême de désir. Et le baptême d'eau, voyons un petit peu ce que dit saint Thomas, voilà. La passion du Christ, donc c'est saint Thomas encore, opère dans le baptême d'eau en tant qu'elle y est représentée comme dans un symbole. Et dans le baptême de désir, par le mouvement du cœur qui se porte vers elle. Vous voyez, ce qui justifie dans le baptême de désir, c'est le mouvement du cœur qui se porte vers la passion du Christ. Et le désir du catéchumène, disons, eh bien, le porte, l'unit d'une certaine façon déjà à la passion du Christ. Et c'est cela qui, dans le cas où il ne peut pas recevoir le baptême d'eau, eh bien, va le justifier, donc va tenir lieu de baptême. Hein. Et c'est bien clair, hein. Je sais bien, c'est une question un petit peu délicate. Hein. Il s'agit du désir là de l'âme. Hein. C'est l'âme qui désire le baptême et qui donc par le désir au moins s'unit déjà à la passion du Christ. Mais ça, c'est le désir de l'âme de celui qui désire le baptême. Hein. C'est pas le désir de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas le désir de la maman, par exemple. Vous voyez, c'est autre chose. Hein. Il y a deux personnes différentes. L'enfant et la maman sont deux personnes différentes. Vous voyez. Et une mère qui désire pour son enfant le baptême, ben peut-être s'unit-elle par elle-même, pour elle-même, à la passion du Christ, par le désir, mais l'âme de son enfant n'est pas la sienne. Et le désir, son désir n'est pas le désir de son enfant, etc. Oui, ce sont deux âmes distinctes, deux âmes différentes. Et ce qui justifie l'âme dans le désir, eh bien justement, c'est la force de ce désir. C'est en gros un acte de charité que fait l'âme, sans le savoir peut-être. Et c'est cet acte, c'est là. Il y a la violence de ce désir, hein, qui veut s'unir à la passion du Christ, et bien qui fait exploser d'une certaine façon le péché originel et qui la libère du péché originel. Mais ça doit venir de l'intérieur de l'âme elle-même. Ça ne peut pas venir de l'extérieur. Hein. Bon. Donc baptême d'eau, baptême de désir, oui, union à la passion du Christ, soit par le symbole pour le baptême d'eau, soit par le désir pour le baptême de désir, mais pour le baptême de sang, eh bien, l'union à la passion du Christ se fait par l'identité des œuvres elles-mêmes. Ouais, donc, différence dans le baptême de sang, c'est que là, l'union à la passion, elle se fait par l'œuvre elle-même, puisqu'on verse son sang. Hein, celui qui est martyr, celui qui verse son sang, bien lui, il s'unit de façon effective, hein, par les œuvres elles-mêmes, l'identité de l'œuvre à la passion du Christ. Pareillement, la vertu du Saint-Esprit agit dans le baptême d'eau par une certaine vertu que possède le sacrement, donc ce qui agit, c'est la vertu du sacrement. Dans le baptême d'esprit, par la conversion du cœur, c'est la conversion du cœur qui agit, mais dans le baptême de sang, elle agit par la plus intense ferveur de l'attachement et de l'amour, puisqu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Donc, les conclusions, hein. Eh bien, c'est que le baptême de sang, comme le baptême sacrement, enlève toute faute et toute peine. Baptême de sang, comme le baptême d'eau, libère de la faute et de la peine, et il possède toute la vertu du baptême. Alors que le baptême de désir, petite différence, baptême de désir, dans le cas d'un catéchumène qui ne peut pas recevoir le baptême, pourtant en péché, qui meurt avant de l'avoir reçu, donc le baptême de désir, lui, ne remet pas nécessairement tous les péchés véniels, ni toute la peine temporelle. Donc le baptême pour les péchés qu'il efface, ouais, c'est pas nécessaire. Là, tout dépend justement des dispositions de l'âme. Ouais. Ça dépend justement de l'état, de la conversion du cœur. Ouais. C'est la force du désir de s'unir à la passion du Christ. Donc, je dis bien, attention, le baptême de désir ne remet pas nécessairement. Peut-être oui, peut-être non, peut-être à moitié, ça. Hein, tout dépend de l'état de conversion du cœur. Hein. Donc pour le baptême de désir, il n'y a pas nécessairement remise de tous les péchés véniels, ni de toute la peine temporelle. Les péchés sont effacés, mais le reste, ça, Dieu seul le sait. Oui, c'est le fond de cette question ici, justement, c'est cette union à la passion du Christ, hein, par le baptême, cette incorporation à la passion du Christ. Hein. Alors, il y a des choses que le baptême ne rend pas. Il rend certaines choses, c'est déjà pas mal, bien sûr. Hein, il libère du péché, il libère du péché originel, il libère des péchés actuels. Il libère de la peine due au péché, très bien, mais il y a des choses que le baptême ne rend pas, et ça nous l'éprouvons tous les jours. Hein. Il y a des choses que le baptême ne rend pas, mais nous voyons bien hein, toutes ces peines, les peines de la vie auxquelles nous sommes encore sujets, ou bien encore ce que l'on appelle la concupiscence, et que nous sentons bien s'agiter en nous, hein, toutes ces inclinations au mal qui sont en nous et qui demeurent en nous, et qui ne sont pas effacées par le baptême. Alors la première chose précisément que le baptême ne rend pas, ces privilèges qu'avaient nos premiers parents et que nous n'avons pas récupérés, que nous ne récupérerons que dans l'éternité par exemple, c'est l'immunité des peines de la vie et de la mort. La souffrance et la mort, hein, toutes ces peines, ces souffrances, ces douleurs que nous avons à connaître dans la vie, bien ma foi, le baptême ne nous en exempte pas, alors que nos premiers parents en étaient exemptés, il y avait les dons d'impassibilité et d'immortalité. Normalement, Adam et Ève ne devaient jamais connaître la souffrance ni la mort. Eh oui, et nous les connaissons. Vous voyez ce que dit saint Thomas. Donc saint Thomas établit bien ce que nous venons de dire, à savoir que le baptême remet toute la peine due au péché. Mais attention, saint Thomas précise bien, il s'agit ici de la peine temporelle due pour les péchés personnels. Hein, le baptême ne remet pas la peine due au péché originel. La peine due au péché originel, pourquoi? Eh bien parce que cette peine due au péché originel, en raison du péché originel, eh bien ce n'est pas une dette personnelle, mais c'est une dette de toute la nature humaine. Hein. La question du péché originel, bon, c'est une question peut-être un petit peu délicate, hein, ce péché qui passe, qui infecte donc toute la nature humaine, donc c'est toute la nature, c'est tout le genre humain qui pêche, qui a péché en Adam. Et donc la peine du péché originel doit être acquittée, payée par toute la nature humaine, par tout le genre humain. Et ça, le baptême, eh bien, ne nous en délivre pas. Le baptême nous délivre de la dette de nos propres péchés, des péchés actuels, ceux que nous avons commis nous-mêmes et non pas le péché qu'ont commis Adam et Ève. Si le baptisé reste sujet à la mort et aux peines de la vie, c'est à cause non pas de sa culpabilité personnelle, mais de l'état de nature. C'est la nature humaine tout entière qui a été dépouillée de ses prérogatives par le péché qu'il atteignait tout entière. Ouais. C'est donc une dette de nature, et que chacun d'entre nous, eh bien, doit solder, qu'on le veuille ou non. Là, il n'y a pas à discuter, il faut que tout homme paye cette dette du péché originel par la souffrance et par la mort. Toutes ces défectuosités, dit saint Thomas encore, qui ne disparaîtront que dans l'ultime réparation de la nature par la résurrection glorieuse. Voilà, c'est ce jour-là que, enfin, toute la dette du péché originel aura été acquittée. Résurrection glorieuse de toute la nature humaine, du moins pour les bénis, pour les maudits, c'est autre chose. Eh oui, vous voyez, c'est que l'on trouve la phrase de saint Thomas, je la trouve plus, ça fait rien. Vous voyez, le péché originel part d'un péché personnel. C'est une personne qui au départ pêche, Adam et Ève. Adam et Ève, voilà, ce sont des péchés personnels. Et ce péché personnel, au départ, devient ensuite un péché de toute la nature humaine. Et toute la nature humaine qui a péché en Adam et Ève. Donc, péché personnel qui affecte toute la nature. Bien. Et la remise du péché se fait, eh bien, pratiquement dans le même ordre, vous voyez. C'est-à-dire que d'abord, c'est la remise du péché personnel, et à la fin des temps, remise du péché pour toute la nature humaine. Voilà. Mais ça n'est qu'à la fin du temps, qu'à la fin des temps, qu'au jour de la résurrection, que tout le genre humain, toute la nature humaine sera délivrée de la dette que la nature humaine doit acquitté pour le péché de nos premiers parents. Si le Christ n'a pas donné à ce sacrement de produire dès ici-bas ce bienfait, de nous libérer de la dette du péché originel, ce n'est pas par impuissance, bien sûr. Dieu aurait très bien pu nous libérer de cette dette, mais c'est par raison d'opportunité. Par raison d'opportunité. Saint Thomas explique justement que le baptême a toute la puissance qu'il faut pour nous délivrer des peines de la vie. Pas de problème, le baptême pourrait très bien nous libérer de toutes ces peines de la vie. Nous pourrions très bien ne plus avoir à connaître la souffrance et la mort. Il n'y a aucun problème. Ce n'est pas que la puissance de Dieu soit limitée, certainement pas. Seulement, au lieu de réaliser cette libération dès ici-bas, il ne l'accomplira qu'en faveur des justes et au jour de la résurrection, lorsque cette chair corruptible aura revêtu l'incorruptibilité. Et c'est toujours, encore une fois, oui, une exigence de cette incorporation au Christ que produit le sacrement. Oui. Puisque le baptême nous incorpore au Christ et fait de nous ses membres, il convient qu'il en soit des membres comme de la tête. Or, le Christ, bien qu'il fût dès sa conception plein de grâce et de vérité, eut pourtant un corps passible qui ressuscita à la vie glorieuse après avoir traversé la passion et la mort. Ainsi, le chrétien qui au baptême reçoit la grâce pour son âme, garde cependant un corps passible dans lequel il peut souffrir pour le Christ, mais qui à la fin ressuscitera pour une vie impassible. Voilà, le disciple n'est pas au-dessus du maître, et donc si le Christ a voulu et a dû souffrir et mourir, mais il est normal que le baptisé, qui est incorporé au Christ par le baptême, également passe par la souffrance et par la mort. Et l'exemption des peines, des souffrances, eh bien, ne sera accordée en fait qu'à ceux qui ressusciteront pour la gloire. Les autres, ceux qui ressusciteront pour la damnation, ceux-là ne connaîtront jamais l'exemption de la souffrance. L'exemption de la mort, oui. Ils mourront plus, alors qu'ils voudraient mourir. Mais ils ne mourront pas. Et non, pour l'éternité, ils souffriront. Eh oui, les pauvres. Bon, il ne faut pas les plaindre. C'est vrai. Hein. C'est terrible. Hein. On a du mal à expliquer ça. Mais enfin, c'est vrai, il ne faut pas les plaindre. Parce que plaindre les damnés, c'est sous-entendre que la justice de Dieu n'est pas parfaite. Si, la justice de Dieu est sainte. Et ceux qui sont en enfer, c'est qu'ils l'ont voulu. Ils ont préféré l'enfer à Dieu. Alors, il ne faut pas les plaindre. Bon, enfin, allez. C'est un casse-tête, un peu. Hein. Nous cassons pas trop la tête. Hein. Eh oui, qu'est-ce que vous voulez, hein. Voilà ce que dit Saint Jean-Eudes, d'une très belle formule. Oui. Nous disons que le disciple ne peut pas être au-dessus du maître, ni, dit Saint Jean-Eudes, les membres couronnés de roses quand la tête est couronnée d'épines. Tous les... Il a été couronné d'épines, il ne faut pas rêver d'une couronne de roses. Hein. Non, non. Ouais. Pourquoi ? Vous connaissez sans doute ces épisodes. Ça arrive plusieurs fois dans des vies de saints, de saintes surtout, où notre Seigneur leur présente deux couronnes. Une couronne de roses, une couronne d'épines. Et généralement, elles choisissent toujours la couronne d'épines. C'est normal. Ouais. Si on est incorporé au Christ, si on aime Jésus-Christ, on veut passer par où il est passé. On ne peut pas imaginer prendre un autre chemin que lui-même, c'est clair. Et donc nous ne sommes pas exemptés, des peines de la vie, des souffrances et de la mort. Nous passons par le même chemin qu'a suivi notre Seigneur, en espérant bien le rejoindre ensuite, après la résurrection, dans son éternité de gloire. Vous voyez, donc notre Seigneur n'a pas été exempté, lui, de ses souffrances. Et donc, nous n'en sommes pas exemptés non plus. Deuxième chose dont nous ne sommes pas délivrés non plus par le baptême, c'est la concupiscence. Et la concupiscence. Alors là, on pourrait nous dire, mais enfin, quand même, quoi, pourquoi pas? Le Christ, il a été exempté, lui. Alors pourquoi pas vous? Pourquoi pas nous? Et là, attention là, Là, il n'y a plus parité. Ouais. Là, il... Ça vaut pour la souffrance, pour la mort, sans doute. Là, il faut que nous passions par le même chemin que lui. Mais pour ce qui est de la concupiscence, non. Hein. C'est... Ouais, il y avait, si l'on peut dire, une sorte de compatibilité. La souffrance et la mort sont tout à fait compatibles avec la mission du Christ, qui est de racheter les hommes et de mourir pour le salut des hommes. Donc, en contraire, il y a compatibilité tout à fait parfaite entre la souffrance, la mort et la rédemption, mais il y a au contraire une incompatibilité très très évidente entre la concupiscence et la sainteté nécessaire pour une rédemption parfaitement efficace. Oui. Même une inconvenance. Inconvenance à imaginer, vous voyez, que notre Seigneur, qui est le Fils de Dieu, qui est le Verbe incarné, ait pu sentir en lui ces mouvements désordonnés que nous sentons en nous, quels qu'ils soient, hein, tous ces mouvements, ces mauvaises inclinations du cœur, de l'âme, de la chair, etc., que nous sentons en nous. Il est bien évident que la chose est inimaginable en notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le Verbe incarné, qui est le Dieu fait homme, la divinité essentielle et présente en lui. On ne voit pas comment, on dirait, le soupçon ou le désir ou l'inclination au péché, hein, peut-être imaginé dans son âme, dans son corps, dans son être, ouais, cela est impensable. Ouais. Donc que le Christ ait été exempté de cette concupiscence, cela est évident, c'est clair, tout simplement par la présence en lui de la divinité. C'est tout. Ouais, c'est... Pour nous, c'est différent. Nous, ben, nous sommes baptisés, mais nous ne sommes pas Dieu quand même. Je dirais, nous ne sommes pas le Verbe incarné, c'est tout à fait différent. Ouais. Et la concupiscence nous est laissée au contraire pour des motifs d'utilité spirituelle. Cette disposition est requise, explique saint Thomas, pour l'exercice de la vie spirituelle. C'est après avoir lutté contre la concupiscence et les autres épreuves de la vie que l'homme doit recevoir la couronne du triomphe. Oui. Il est certain qu'il en coûte davantage, il nous en coûte davantage, de rester fidèle à Dieu dans l'épreuve, dans la tentation, oui, mais précisément dans cette lutte que nous menons contre la tentation, contre les mauvaises inclinations, bien, qu'est-ce que nous faisons? Bien, nous produisons des actes de charité. Chaque fois que je refuse de me laisser entraîner par la tentation, de succomber, etc., finalement, qu'est-ce que je fais? J'affirme ma préférence de Dieu, je fais un acte de charité, je dis à Dieu, je vous aime plus que tout, plus que le péché, bien sûr, plus que ce désir que je sens en moi, mais c'est vous que je préfère, et donc je produis un acte de charité, et en produisant cet acte de charité, j'acquiers mes mérites pour le ciel. Ouais. Et donc je tisse, si l'on peut dire, un petit peu ce manteau de gloire qui sera le mien par cette lutte contre la tentation, grâce, d'une certaine façon, à la concupiscence. Ouais. Et oui, elle est là pour, justement, m'exercer à la vertu. Toutes les misères, c'est saint Augustin qui dit cela, toutes les misères de la déchéance subsistent pour servir au combat de la foi, afin qu'elle soit pour l'homme un exercice et un moyen de perfectionnement dans le travail pénible de la justice. Tous les maux d'ici-bas, avant la rémission des péchés, sont un châtiment, mais après le baptême, ils sont une épreuve pour exercer la vertu des justes. Ouais. Avant la rémission des péchés, eh bien, c'est un châtiment. Voilà, je suis pécheur, j'ai le péché originel, j'ai tous mes péchés actuels, donc je suis puni. Bon, ça va bien, c'est normal, c'est ce que vous voulez. Après le baptême, je n'ai plus le péché originel, donc ce n'est plus un châtiment, mais c'est une épreuve. Hein, tous les maux d'ici-bas deviennent à ce moment-là une épreuve pour exercer la vertu des justes. Le Concile de Trente parle de cela. Le Saint-Concile, néanmoins, confesse et reconnaît que la concupiscence ou l'inclination au péché reste dans les personnes baptisées, laquelle, ayant été laissée pour le combat et l'exercice, ne peut nuire à ceux qui ne donnent pas leur consentement, mais qui résiste avec courage par la grâce de Jésus-Christ. Oui, donc ceux qui ne donnent pas leur consentement et qui résistent avec courage. Au contraire, la couronne est préparée pour ceux qui auront bien combattu. Le Saint-Concile déclare encore que cette concupiscence, que l'apôtre appelle quelquefois péché, n'a jamais été prise ni entendue par l'Église catholique comme un véritable péché, qui reste à proprement parler dans les personnes baptisées. Attention, ce n'est pas un péché ce qu'on appelle la concupiscence. Et si parfois l'apôtre l'appelle péché, c'est parce qu'elle est un effet du péché originel et parce qu'elle porte au péché. Et donc cette concupiscence, elle demeure en nous. Pour l'épreuve des bons, pour nous exciter un petit peu, nous provoquer à faire des actes de charité. La mort qui est la peine du péché, c'est le Concile de Trente encore qui dit cela, devient un moyen de salut pour ceux qui l'endurent avec patience et courage pour leurs frères, pour la foi, pour la vérité et la justice. Et on peut donner encore une raison, même, ouais, de cette non-délivrance de l'impassibilité, de la concupiscence. Ouais, pourquoi tout cela nous est laissé, ça rejoint un peu ce que nous disions tout à l'heure. Ouais. C'est saint Thomas d'Aquin qui, toujours pareil, donne cette raison très, 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 très claire. Hein. De peur qu'il ne soit attiré au baptême par le désir de l'impassibilité et non par celui de la vie éternelle. Et sûr que si le baptême nous délivrait de la souffrance et de la mort, tout le monde se ferait baptiser. C'est évident, trouvez-moi quelqu'un qui ne viendrait pas au baptême. Mais le motif ne serait pas tout à fait celui que Dieu attend. Non, Dieu veut qu'on demande le baptême pour la vie éternelle. Que demandez-vous à l'Église? La foi. Que vous procure la foi? La vie éternelle. Voilà pourquoi on demande le baptême. Et non pas pour être tranquille ici-bas, certainement pas. Oui. Alors, si le baptême avait pour effet, justement, de nous délivrer de tout cela, oui, bon, tout le monde, certainement, viendrait au baptême, mais les raisons ne seraient peut-être pas très, très nobles. Oui. Bon, cela dit, tous ces dons donc, ne sont pas restitués aux baptisés, ces dons absolument gratuits. Mais il faut bien réaliser, il ne faut pas avoir trop de regrets, hein, parce que ces dons ne sont pas absolument nécessaires à l'obtention de la fin surnaturelle. On peut très bien se sauver sans avoir ces dons d'impassibilité, d'immortalité, d'intégrité, etc. Ça, il n'y a pas d'obstacle majeur, je dirais, au salut dans l'absence de ces dons. Sans doute, c'était une sorte de privilège que nos premiers parents avaient eux-mêmes. Mais nous voyons même que ça ne les a pas mis à l'abri du péché, malheureusement. Alors, vous voyez, il ne faut pas trop non plus avoir de regrets. Parce que nous avons, nous, quant à nous, eh bien, justement, toute l'abondance des secours de Dieu par les sacrements, tous ces sacrements, hein, qui suppléent, si l'on peut dire, d'une certaine façon, à toutes ces immunités primitives qui étaient celles d'Adam et Ève. Qui étaient exempts de tout un tas de choses, eh bien nous n'avons pas ces exemptions, mais nous avons les sacrements, et Adam et Ève n'avaient pas ces sacrements, ils n'avaient pas ce secours. Adam et Ève n'avaient pas le sacrement de l'Eucharistie, ouais, par exemple, et non. Et donc le baptême, ouais, le baptême, si ne nous rend pas ces dons très très précieux, qui étaient les dons préternaturels, le baptême dépose dans le chrétien le principe, la source, la racine de la restitution de ces dons dans l'autre monde. Et même, je dirais, encore plus, d'une façon encore plus magnifique. Hein. Le baptême, sans doute, n'empêche pas non plus la mort corporelle, mais le baptême fait, eh bien, que le triomphe de la mort n'est que transitoire. La mort n'est plus la grande victorieuse, c'est fini. Elle a un certain triomphe, mais qui est vraiment très passager et très dérisoire, et elle le sait bien, d'ailleurs. Elle le sait bien. Le baptême ne nous exempte pas des souffrances, c'est bien clair. Hein. Toutes les épreuves, la maladie, la souffrance, etc. Mais toutes ces souffrances, eh bien, seront réduites à l'impuissance. Hein. Également, toujours pareil, dans l'éternité. Hein. C'est grâce au baptême, eh bien, nous pouvons dire dès maintenant. Hein. Dès maintenant, ce que disait le prophète Osée, que nous chantons dans la messe des défunts, c'est très beau, hein, « Mort, où est ta victoire ? Mort, où est ton aiguillon ?» On peut pratiquement, je dirais, non pas défier la mort, il ne faut pas exagérer, mais vraiment ne plus avoir peur de la mort. Le chrétien n'a pas peur de la mort. Le chrétien n'est pas vaincu par la mort. La mort n'est plus un échec, n'est plus la défaite pour le baptisé, au contraire. C'est la victoire du baptisé. C'est au moment où il meurt qu'il entre dans la vie, comme dit Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. J'entre dans la vie. Eh oui. Bon, alors, ne précipitons pas trop les choses, laissons le bon Dieu faire les choses, hein, c'est clair. Mais le baptisé n'a plus à craindre la souffrance ni la mort, tout cela n'a pas de... Bon, ben, tout cela va le faire souffrir, c'est bien évident, sinon ce ne serait plus de la souffrance, mais tout cela n'a pas de quoi, je dirais, le faire trébucher en soi. Hein. Si vraiment il puise dans son baptême toutes les ressources qui sont cachées dedans par Dieu, dans la grâce de Dieu, vraiment le baptisé a dans son baptême tout ce qu'il faut bien pour surmonter tout ce qu'il peut y avoir de troublant, hein, dans la souffrance et dans la mort. Hein. Et le baptême, au contraire, justement, donne au baptisé bien le titre à une résurrection glorieuse. Hein. Et tout cela est établi sur tout l'enseignement de l'Église, l'enseignement des apôtres, l'efficacité de la rédemption, même notre qualité de temple de Dieu. Et puis surtout, hein, c'est là, je crois, la grande chose à laquelle il faut toujours revenir, hein, cette sorte de solidarité, hein, que le baptême établit en nous incorporant à lui entre le Christ et nous. Et tout ce que le Christ a vécu, nous l'avons vécu avec lui. Nous l'avons vécu en lui. Et donc, c'est nôtre. C'est à nous. Tout ce qu'il a vécu, c'est à nous. Ça nous appartient d'une certaine façon par le baptême. C'est dommage, on ne réalise pas ça. Je pense trop. C'est bien que c'est difficile à bien réaliser, mais je crois qu'il n'y a pas de vérité plus consolante pour les baptisés que cette pensée-là, hein, c'est-à-dire que nous sommes incorporés à Jésus-Christ. Donc, tout ce qu'il a connu depuis sa conception, sa naissance, son enfance, son âge adulte, sa mort, sa passion, sa résurrection, son ascension, etc., tout ça, nous l'avons vécu avec lui. Et ça, c'est l'idée centrale, l'idée majeure de saint Paul. Hein. Je sais bien que les épîtres de saint Paul ne sont pas toujours très, très faciles, sont moins difficiles qu'on croit. Il faut moins essayer, quoi, déjà. Mais c'est là l'idée centrale, sans doute, hein, des épîtres de saint Paul. Pour saint Paul, le corps des baptisés est devenu le corps du Christ. Les membres des baptisés sont les membres du Christ. Rappelez-vous, nous en avons parlé déjà il y a quelque temps. Hein. Donc, de la même façon que le Christ a ressuscité son propre corps, eh bien, il ressuscitera également le nôtre. Hein, le sien, etc., tout ça, c'est un peu la même chose. Si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, pareillement aussi, Dieu ramènera les morts avec lui par Jésus. Celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels à cause de son esprit qui habite en vous. Et oui, nous devons donc passer, nous sommes membres de son corps, nous devons passer par où il est passé et nous arrivons là où il est maintenant. Ouais. Et c'est là le sens aussi de cette affirmation de saint Paul. Hein. Si nier notre résurrection, ouais, ça serait pratiquement nier la résurrection du Christ. Hein. Cet argument qu'il emploie contre les Sadducéens qui niaient la résurrection des corps. Si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Or, le Christ est ressuscité, donc les morts ressuscitent. Et donc, nous ressusciterons, c'est très clair. Sa résurrection, c'est déjà, d'une certaine façon, la nôtre. Sa résurrection exige la nôtre, son ascension exige la nôtre, et son triomphe au ciel exige notre propre triomphe au ciel. Il est notre avant-coureur, ce que dit saint Paul, « primitiae dormientium ». Très beau ça, c'est intraduisible en français ça, primitiae dormientium, les prémices de ceux qui dorment, ouais. Mais il ne dort plus, il est ressuscité, il est réveillé depuis longtemps, de toute façon il n'a jamais dormi. Il n'a jamais dormi car dans le tombeau, il était vivant toujours, ouais. Et oui, puisque la divinité était toujours présente dans son corps. Donc son corps, sa nature humaine était morte, mais pas sa nature divine, c'est clair. Ouais. Donc... Et nous sommes au tombeau avec lui. Nous sommes dans le tombeau avec lui. Quand nous sommes morts, eh bien, nous sommes vivants toujours en lui, dans sa divinité, par sa divinité. Oui. Eh oui, C'était beau le baptême, ça. Et Saint Paul, on voit bien, parfois, c'est peut-être ça qui le rend un peu difficile à comprendre, c'est que il ne sait pas comment exprimer ce qu'il pense, vous voyez, ce qu'il croit. C'est vrai que ce n'est pas facile de bien exprimer ça, et notamment cette, vous voyez, cette solidarité entre le Christ et nous. Vous voyez. Et il met les verbes parfois au passé, ensuite au présent, ensuite au futur, il mélange tout ça, ce qui fait qu'on... Et parce que pour lui, tout ça, c'est pratiquement la même chose. Vous voyez. Nous sommes déjà ressuscités dans le Christ. Nous sommes déjà ressuscités dans le Christ. Vous êtes déjà ressuscités. Vous êtes déjà mort dans le Christ, vous êtes déjà ressuscité dans le Christ, vous êtes déjà couronné dans le ciel avec le Christ. Alors sans doute, ça ne s'appliquera concrètement à chacun d'entre nous que plus tard, mais nous le sommes déjà, puisque lui, il l'est déjà. Oui. Oui. Semé dans la corruption, dit encore Saint Paul, ils ressusciteront dans l'incorruptibilité mortelle, ils revêtiront l'immortalité. Semés dans la faiblesse, ils ressusciteront dans la force. Semés dans l'ignominie, ils ressusciteront dans la gloire. Semés dans l'animalité, ils ressusciteront spirituel. Ainsi s'accomplira cette rédemption de nos corps que nous attendons en gémissant. C'est une des raisons, sans doute aussi, de ce dont l'Église entoure même les corps des défunts. Eh bien, parce que ce corps est déjà ressuscité dans la résurrection de Christ. Et donc, il faut le respecter, il faut le vénérer. C'est d'une certaine façon déjà vénérer ce corps ressuscité, glorieux, dans la gloire de Dieu. Ouais. Voilà un petit peu, donc, sur les quelques autres effets du baptême. Baptême, donc, principe, en gros, d'une triple mort et d'une triple résurrection. Notre première mort et résurrection bien s'opère au moment du baptême, au moment où le sacrement lui-même est administré. Bon, l'âme meurt au péché. La seconde mort et résurrection bien va s'accomplir tout le long de la vie. Et donc nous sommes incorporés à tout ce qu'il a vécu. Sa souffrance, sa mort, sa résurrection, son entrée dans la gloire. Tout ça, bien, tout ça c'est pour nous. On peut très bien appliquer, vous voyez, ce double symbolisme de mort et de résurrection aux deux sacrements auquel nous accédons le plus fréquemment, le sacrement de pénitence et le sacrement de l'Eucharistie. Et puis ensuite, eh bien, la troisième mort et résurrection, eh bien, ce sera notre mort, voilà, la dernière mort, si vous voulez, que nous aurons à connaître avant la grande résurrection avec celle de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà un petit peu quelques-uns encore des effets du baptême. C'est lui le baptême qui nous permet justement d'espérer entrer un jour dans la joie de notre Seigneur. Voilà.